Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, j'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette au micro avec vous pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. C'est la semaine québécoise des personnes handicapées qui débute dès demain et ce jusqu'au 7 juin prochain. Le thème choisi cette année, c'est « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». Et évidemment, bon, c'est la 20e édition cette année. Canal M sera là pour couvrir cette semaine et s'intéresser avec nos différents sujets cette semaine et à tous les enjeux qui touchent de près, de loin, les personnes en situation de handicap et leur famille, leur entourage. On débutera aujourd'hui avec Maryse Filion, elle est coordonnatrice littératie physique inclusive chez Altergo et avec elle, on discute des meilleures façons ou des meilleurs procédés pour développer l'accès à l'activité physique pour les personnes qui vivent avec une déficience visuelle. Aussi, j'aimerais vous raconter une belle histoire. Imaginez-vous prendre un chien abandonné, et ça devrait pas être trop, trop compliqué parce qu'il y en a beaucoup au Québec, hein, on en parlera plus tard, pas un tableau très, très reluisant ici en ce qui a trait à l'abandon des animaux. Donc, un chien abandonné, donnez-lui du temps, des soins, un entraînement spécialisé et vous allez peut-être le transformer en un chien d'assistance pour des personnes qui vivent avec des troubles affectifs, des troubles psychologiques. Ça vous donne un organisme qui s'appelle les Chiens Togo. C'est basé au Mont-Saint-Hilaire et on s'entretient aujourd'hui avec la directrice de cette entreprise, organisme. Elle est également titulaire d'un baccalauréat, oui, en psychoéducation, également éducatrice canine. C'est Noémie Labbé-Roy. Bonjour Noémie.
Bonjour.
Noémie Labbé-Roy, merci d'être là. Je rigolais avec Jean-Sébastien parce que baccalauréat, c'est un mot que je trouve très difficile à dire. Il me taquinait hors d'onde en me disant « As-tu un, toi? » Oui, j'en ai un. Mais bon, des fois, la langue fourche. Monsieur Laliberté, derrière sa console. Noémie, je réfléchissais à ça et je me disais « Les chiens Togo, c'est un peu un organisme de deuxième chance. » Et je m'explique, c'est-à-dire on donne une deuxième chance à des chiens qui sont abandonnés, qui peut-être ne convenaient pas à une famille, à des maîtres, par des mauvais choix, une mauvaise évaluation des besoins d'un chien, d'une part, et on donne une deuxième chance à des personnes qui souffrent soit de problèmes de santé mentale, de troubles affectifs. Est-ce que c'était ça un peu l'idée derrière la création des chiens Togo?
Derrière la création des chiens Togo, il y avait une Noémie qui était en stage en pédopsychiatrie avec des enfants qui avaient des graves troubles de comportement et une étudiante, en fait, en psychoéducation qui était un peu dans les questionnements sur concrètement qu'est-ce que mon travail fait dans la famille avec laquelle j'interviens et pour l'enfant. Donc, j'essayais de lui enseigner des moyens de gestion de l'anxiété, moyens de gestion de la colère. On sait que c'est difficile pour nos petits-enfants dans ces milieux-là. Et j'étais frustrée. Alors, le projet, je pourrais dire qu'il vient d'une petite frustration. J'avais le sentiment que ce que je faisais pouvait être aidant dans le milieu, mais quand le petit bonhomme s'en allait à la maison, c'est comme si ça le suivait pas chez lui. Ça me fatiguait. Donc, j'étais à la recherche d'un moyen concret pour aider l'enfant et sa famille. Ça va de soi, là, on sépare pas un de l'autre. Et en parallèle à ça, je travaillais pour Demain de Maître, qui est une entreprise d'éducation pour chiens. Et ça n'a pas été long que j'ai vu que tout ce que j'apprenais en psychoéducation, ça se transposait sur les chiens. Hein? Un apprentissage, c'est un apprentissage. Du conditionnement, c'est du conditionnement. Skinner, Pavlov, blablabla et tout ça.
Ouais.
Et donc, c'est né tranquillement dans ma tête. Je voyais aussi que les enfants en pédopsychiatrie avaient des difficultés au niveau des habiletés sociales, mais avaient souvent des chiens à la maison avec lesquels il y avait beaucoup, beaucoup d'empathie, pouvaient parler du chien plus facilement. Donc, ça a germé tranquillement dans ma tête, tout ça. Et je suis tombée en congé de maternité, donc j'ai eu un petit peu de temps pour réfléchir. Et voilà, c'est à peu près là que le projet a pris forme dans ma tête. Et à un moment donné, par le biais de l'entreprise pour laquelle je travaillais, je me suis retrouvée à aider une jeune fille qui était étudiante en cinéma à l'université, qui s'en allait abandonner ses études parce qu'elle n'était plus en mesure de transporter son matériel. C'est quand même lourd, là, une caméra, tout ça.
Ouais.
Et puis, j'ai été appelée à travailler avec elle et son chien, c'était un chien de refuge. Alors là, je me suis dit, ah, mais pourquoi on ne pourrait pas prendre des chiens de refuge et les entraîner pour aider une personne qui en a de besoin? Dans ce cas-ci, c'était de l'assistance physique. Maintenant, étant donné que mes études sont en psychoéducation, que je connais plus le côté psychologique, maintenant, nos chiens qu'on entraîne sont plus pour aider les personnes au niveau psychologique.
Oui. Parlons-en de ces chiens de refuge, parce que je pense que la parenthèse est importante à faire. Il y en a beaucoup au Québec, des chiens abandonnés, des animaux abandonnés, des chiens dans les refuges. Est-ce qu'il y avait cette sensibilité aussi face à ce fléau? Parce qu'au Québec, on n'est vraiment pas des champions là, en matière de protection de nos animaux de compagnie domestiques.
Non, au Québec, c'est 500 000 animaux qui sont... Ça fait un demi-million hein, quand même d'animaux abandonnés par année, pour toutes sortes de raisons qu'on connaît. C'est sûr qu'il y avait ce désir-là. J'ai toujours été une fille à chien de refuge. Là, je pense qu'il y a des gens dans cette clique-là qui se reconnaissent, qui ont toujours eu des chiens. Bon, je suis une personne qui veut aider dans la vie. Fait qu'aider un chien, aider un enfant, aider un humain, ça se rejoint pour moi. C'est commun. Donc oui, je voyais d'un côté qu'il y avait un bassin de chiens qui était là, qui avait du super potentiel. Nous, ce qu'on voulait voir, c'est le niveau comportemental. On peut revenir plus tard sur qu'est-ce qui fait un bon chien Togo.
Bien
c'est sûr que
ce
n'est pas tous les chiens abandonnés qu'on peut entraîner, mais il y en a énormément qui ont le potentiel au niveau comportemental où les risques d'agression sont à peu près minimes, sont très, très basses, et qui sont prêts à apprendre, qui veulent juste ça, aider un être humain. Alors,
et être aimé aussi.
Absolument, absolument. Notre façon de pairer l'humain avec le chien, c'est que les deux doivent se choisir. C'est-à-dire qu'on n'entraîne pas des chiens d'avance. On choisit un chien avec l'humain qui a fait une demande chez nous. Et puis, on veut qu'ils se rencontrent, que le choix soit réciproque. Bon, c'est sûr que le chien, on a choisi un chien qui aimait les gens. Alors, de ce côté-là, ça va bien généralement. Mais on veut que l'humain aussi choisisse le chien.
Ils s'observent comment ce match-là, en mauvais français, cette rencontre ultime-là, quelles sont les caractéristiques qui déterminent, OK, là, on a un pairage?
En premier lieu, une fois qu'on a repéré un chien qui avait, oui, les caractéristiques qu'on recherche pour en faire un chien d'assistance, on le propose de manière très résumée à la personne, vraiment une photo, là, rien de très gros. Parce que, oui, mon travail, de notre côté, les évaluateurs vont s'assurer que le comportement est là pour le chien, mais le look, ça compte aussi. L'être humain doit être attiré par son chien. C'est sûr que si on a super peur du look de notre chien ou on le trouve pas beau, ben coudonc, c'est comme les êtres humains. Il y en a pour qui ça matche plus facilement qu'avec d'autres.
Ouais.
Alors, il y a ça qui est là. Là, la personne, si elle dit « oui, j'ai un bon feeling », alors je veux qu'il y ait un feeling au départ de son côté, je l'invite à rencontrer chez moi l'animal. Je prends un instant pour lui présenter et puis je m'éclipse. Alors, je veux que l'être humain passe un moment avec le chien. Il n'y a pas de directive qui est donnée du tout, du tout. Alors, tu peux prendre la balle, tu peux jouer avec, tu peux ne rien faire, tu peux le flatter, tu peux le regarder. Et au bout de 30 minutes, une heure, je reviens et je dis à la personne, c'est très important, il ne t'est pas imposé, il y en a plein d'autres.
Ouais.
Parce que je veux que le choix se fasse vraiment volontairement. Et puis, ben, généralement, c'est fait. Là. C'est pas très long. C'est une question de regard, honnêtement, ce qui m'est rapporté par les gens. Là. Oh, je savais que c'était lui.
Ouais. Quand les êtres humains arrivent chez vous, Noémie, qu'est-ce que vous savez sur eux? Qu'est-ce que vous devez savoir, le profil de ces gens-là?
La première chose qu'on fait, c'est sûr que nos êtres humains sont reçus par une diplômée en psychoéducation. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai fait ce poste-là. Je suis en train de former une deuxième personne aussi pour répondre aux demandes qui sont grandes. Donc, on fait, dépendamment s'il y a des enfants présents, c'est pas la même évaluation qui va être faite avec des adultes. La première chose qu'on dit, surtout aux parents d'enfants, par exemple des enfants qui auraient un trouble autistique, c'est qu'on doit, pour moi, c'est un devoir de faire comprendre aux parents, l'enfant va avoir encore un trouble autistique. Alors, nous, on n'a pas de magie à donner ou quoi que ce soit. Le chien est un moyen extraordinaire de venir faire plusieurs choses, mais ça ne va pas là, faire en sorte que l'enfant n'aura plus de trouble autistique. Alors, premièrement, je veux voir si les gens sont réalistes dans leurs attentes par rapport au projet. Ensuite, est-ce que l'enfant est âgé de plus de 6 ans? Ça, c'est la condition chez Togo. Ouais. On n'entraîne pas de chien pour des enfants en bas de 6 ans parce que je considère que le risque est trop grand, qu'il y ait une mauvaise aventure dans l'histoire. au niveau, sinon, on va regarder, si on va faire une évaluation, en fait, de l'enfant avec des chiens que je vais avoir sélectionnés. Mmh. Et je vais voir comment le parent va mettre, par exemple, si je donnais une consigne. Ça se peut que l'enfant ne l'applique pas immédiatement, c'est un enfant, mais je veux voir que le parent ou les parents sont là pour dire « Oublie pas Antoine, qu'est-ce que Noémie a dit, on approche le chien doucement. » Donc, que les règles vont être appliquées à la maison, que les parents se réalisent que ce n'est pas une gardienne d'enfant qu'on leur donne, que oui, c'est un chien Togo extraordinaire avec des comportements extraordinaires. Là. Le chien qui fait l'envie de tout le monde, oui. Mais c'est un chien, c'est un animal et c'est à superviser pour toute la vie du chien.
C'est une aventure familiale, recevoir un chien Togo. Là.
Absolument.
Parlons-en de ces chiens-là. Au même titre que les êtres humains qui arrivent chez vous, ils doivent présenter, j'imagine, certaines caractéristiques dès le départ.
Oui, c'est sûr. Comme je disais tantôt, c'est vraiment pas tous les chiens abandonnés qui rencontrent nos critères. Nos critères sont très, très hauts parce qu'on veut qu'il y ait le risque qu'on se fasse appeler par la suite puis de se faire dire « Hey, ton chien a fait telle, telle affaire ». Soit quasi nul. On s'entend encore là que c'est des chiens. Alors, c'est un animal, c'est un être vivant, on ne peut pas nier ça, mais on veut que le risque soit minime. Donc, nos chiens doivent présenter aucune possessivité de nourriture, leurs jouets, par exemple, leurs os. Parce que les petits-enfants, ça va vite, ça arrache une balle de la gueule du chien. On ne veut pas que le chien ait appris à réagir à ce genre de comportement-là. Je parle toujours avec des enfants, parce que des enfants, ça respecte un petit peu moins les consignes autour du chien, mais les mêmes directives sont données aux adultes.
Ils connaissent moins les comportements à adopter, comportements adéquats avec les chiens.
Exactement. Il y a de l'éducation à faire de ce côté-là qui est fait aussi. Donc, le chien doit présenter là, pas de possessivité. Il doit être à l'aise avec les enfants de tous âges, doit être à l'aise avec les individus de tous âges, de toute race, parce qu'il y a des chiens qui peuvent discriminer, de tout âge aussi. Il y a des chiens qui sont moins à l'aise avec des bébés. Il faut qu'ils soient à l'aise avec les bébés aussi, avec le plus grand éventail de variables possibles qu'il va croiser dans son contexte de vie, surtout s'il l'accompagne dans les lieux publics. Il faut aussi que ce soit un chien qui accepte facilement d'être manipulé partout sur le corps. Parce que même, à la limite, si le chien accompagne un adulte qui a une problématique, ça se peut qu'il y ait un petit bonhomme de 2 ans dans le centre d'achat qui s'en vient en courant puis que maman n'a pas le temps de rien faire. Il ne faut pas que le chien soit mal à l'aise si tout d'un coup, il y a une petite main maladroite qui arrive de nulle part. Oui. Alors, on s'assure de ce côté-là que les risques sont le plus minimes que possible pour un animal.
Togo entraîne, forme des chiens d'assistance psychologique. On connaît un peu moins ça. On connaît bien les chiens Miran qui sont là pour assister des personnes avec des limitations, un handicap visuel. Des chiens d'assistance psychologique, un peu moins. Ça fait quoi, ce type de chien-là?
Un chien d'assistance psychologique, c'est surtout pour moi un moyen, comme je disais tantôt, moyen de gestion de l'anxiété, moyen de gestion de la colère. Par exemple, si on a une personne qui a un trouble anxieux, un trouble d'anxiété généralisé ou un trouble du stress post-traumatique et qui a de la difficulté au niveau du sommeil. Bon, la personne se réveille en pleine nuit, fait des terreurs, a de la misère à se rendormir. Bien, dans ce contexte-là, un exemple dans lequel le chien pourrait être aidant, c'est que le chien serait là, au besoin. Mm-hmm. Il a appris que si la personne fait un cauchemar, à venir apporter du réconfort, par exemple, à se couchant à côté. Hein, c'est toujours différent d'un entraînement à l'autre. On y va avec les préférences de la personne. Il y en a qui aiment ça, sentir le poids du chien sur eux. Il y en a d'autres qui disent, ben là, ça m'étouffe, j'aime pas ça. Donc, on s'adapte. Mais ça peut être, par exemple, dans ce contexte-là, au niveau d'un trouble du sommeil, qui est très... qu'on voit beaucoup dans les troubles psychologiques en général. Mm-hmm. Ça peut être aussi un bon moyen au niveau des habiletés sociales. Quand je parle de mon chien, je parle pas directement de moi. Ouais. Je passe par une troisième personne. Ça me permet de pratiquer comment entrer en relation avec les autres. C'est pour ça qu'on peut pas dire, bien, le chien fait ça. Le chien fait beaucoup de choses selon le contexte et c'est à nous de former les humains aussi qui sont dans la famille, soit le bénéficiaire lui-même ou les parents, pour qu'il soit en mesure de prendre ces moments-là où le chien peut être aidant. Mm-hmm. J'ai des personnes qui me disent, bien moi, quand je suis très, très stressée, je colle mon chien et j'écoute sa respiration. Le chien, là, on l'a sélectionné parce qu'il n'était pas stressé dans la vie. Alors, il respire très lentement. Et la personne, bien, en écoutant son chien, c'est un moyen de gestion de l'anxiété qui est adéquat.
Mm-hmm. Le chien Togo, c'est un tout nouveau, c'est nouveau, 2015, Noémie, nouvel organisme. Et pourtant, il y a déjà des histoires à succès quand même. La presse nous en présentait un dernièrement. Qu'est-ce que ça change dans le quotidien, dans la vie de vos clients, des gens qui passent chez vous?
Ce qui est rapporté, c'est, encore là, ça dépend de quel client, parce que notre panoplie d'aide est très différente. Si c'est des gens avec des enfants, il y a une diminution des crises qui est rapportée. Par exemple, on donne des trucs, là, on va dire, ben, moi, si l'enfant a tendance à faire une crise quand tu lui demandes d'aller prendre son bain, dis qu'on va aller laver Buffy, par exemple, tel chien, et puis on va passer une petite débarbouillette, puis hop, on fait couler le bain. Bon, alors ça, c'est beaucoup rapporté au niveau des crises. Beaucoup aussi au niveau de l'état dépressif. Nos humains, ça, c'est plus les adultes avec des troubles psychologiques qui vont nous dire, ben regarde, j'ai une raison de me lever le matin. Ça, ça a changé ma vie.
J'ai cette petite face-là, quelqu'un à promener.
Exactement. Puis nos chiens sont dans le moment présent. Ça, c'est pour moi, la plus grande qualité des chiens en général. Ils ne s'inquiètent pas de demain, ils ne s'inquiètent pas de ce qui s'est passé hier. Ils sont maintenant, ils sont contents d'être contents. Et puis ça, ça fait beaucoup de bien pour quelqu'un qui est toujours en hypervigilance, en train de se demander, OK, qu'est-ce qui va se passer tantôt? Comment ça va aller à l'épicerie? Oh là, il y a quelqu'un qui va me dire ça, il y a quelqu'un qui va me... Bien là, il y a cette grosse face-là de chien-là qui vient proche de l'humain puis qui, oups, le fait sortir de cette bulle dans laquelle il était pris.
Et qui impose une routine aussi. C'est vrai, l'espèce de besoin ou l'envie de se lever le matin parce qu'il y a quelqu'un qui a, ben, un chien qui a soif, un chien qui a faim, un chien qui doit sortir à l'extérieur. Évidemment, ça peut imposer une routine qui est sécurisante aussi, une espèce de quotidien un peu plus confortable pour des gens qui ont des défis de cet ordre. Là. Noémie, le temps file, mais il y a un beau problème avec les chiens Togo en ce moment, c'est que l'offre est immense, autant des bénévoles, autant des donateurs. Comment ça se gère, tout ça?
Eh bien, ça se gère en s'entourant d'une équipe extraordinaire. Moi, ma plus grande qualité dans la vie, c'est vraiment de choisir les gens avec qui je m'entoure, honnêtement. J'ai quelqu'un au niveau de toute la stratégie, de comment Paul Saint-Georges, je vais le nommer, qui est le papa de mon ami d'enfance. Alors, je ne peux pas avoir plus grande confiance en quelqu'un que lui. C'est un comptable agréé et il avait une vision quand on s'est rencontrés au début du projet qui correspondait bien à ce que je voulais. Puis il me disait tout le temps, on prend notre temps, Noémie, on fait les choses une marche à la fois, on veut bien structurer les choses. Et ça fonctionne très, très bien. Ça me rejoint, puis ça rejoint tout le monde qui s'est greffé à l'équipe petit à petit. Toute personne qui est dans ce projet-là n'a pas comme premier objectif de faire des millions avec ça. Ouais. On a tous en commun de vouloir aider, soit d'aider des chiens ou d'aider des êtres humains, et je dirais plus souvent « et » que « ou », non? Ouais. Normalement, tout le monde dans l'équipe est à ce niveau-là. Donc, est-ce que je peux faire ça toute seule, moi qui ai aussi une petite puce de 14 mois à la maison? Non. Ça pourrait pas, je pourrais le faire, mais à petite échelle. Mm-hmm. C'est en train de grandir parce qu'il y a des gens qui y croient, qui se joignent à l'équipe, qui disent hey, « moi, je veux vraiment participer ». Et je trouve ça très, très flatteur et extraordinaire qu'il y a autant de gens qui sont prêts comme ça bénévolement à se joindre à un projet dans lequel ils croient.
Ça aussi, ça donne envie de se lever le matin.
Absolument.
Leschientogo.com, dernière chose, ça prend 6 semaines, je pense.
6 à 8 semaines.
6 à 8 semaines, oui. C'est cher.
Oui.
Comment avoir accès si on ressent ce besoin d'avoir un chien d'assistance psychologique? Comment on peut se donner l'accès à ce type de chien?
La première chose à faire, c'est de prendre contact avec nous. Ça, c'est évident. Ensuite, si au niveau financier, c'est pas possible pour l'instant parce que pour l'instant, nos chiens ne sont pas remis gratuitement. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait quand même une rencontre et on commence à avoir une liste d'attente pour le moment où ça sera possible pour nous de réduire les frais payés par les bénéficiaires. Notre objectif, c'est de pouvoir remettre les chiens gratuitement et je suis persuadée qu'on va arriver à cette fin dans les prochains mois ou années. Mm-hmm. Au plus tard, j'en suis sûre.
Une chose qui est certaine, Noémie, c'est qu'on continuera à vous suivre parce que d'inspiration. C'est vraiment un très, très, très beau parcours et un bel organisme que ces chiens Togo. Noémie Labérois, directrice de cette entreprise qui est devenue un organisme et également titulaire d'un bac en psychoéducation, éducatrice canine. Vous avez également un certificat en psychologie. Ça a été vraiment un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup.
Pareillement, merci de l'invitation.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Elle est en train de se battre avec son guide de pratique, Maryse Filion, coordonnatrice littératie physique inclusive chez Altergo. Merci d'être là.
C'est un grand plaisir d'être là. Merci, Marianne, de me recevoir.
Ben oui, puis en plus, vous êtes là presque, bon, 24 heures d'avis, on doit le dire, mais important parce que c'est notre premier sujet personne pour la semaine de la semaine québécoise des personnes handicapées, donc un sujet qui nous est cher. Et ce guide pratique, en fait, c'est adapté pour mieux performer, qui est destiné à l'entourage de gens qui vivent avec des limitations visuelles. Et ce que l'on veut à travers ce guide pratique, c'est d'inciter ces personnes à plus d'activités physiques, d'activités sportives. Il s'adresse, bon, à l'entourage, mais plus spécialement à des intervenants, je pense.
Oui, tout à fait. Donc, ça vise les intervenants en activité physique, donc des éducateurs physiques, des entraîneurs, des animateurs, donc tous les gens qui interviennent dans le domaine de l'activité physique qui, à un moment donné ou à un autre, pourraient avoir un jeune qui a une déficience visuelle dans sa programmation, dans son groupe de participants. Et donc, l'objectif, c'est de les outiller à savoir comment bien inclure les jeunes qui ont une déficience visuelle dans leurs activités. Donc, c'est des indications assez simples à suivre qui sont, somme toute, assez faciles à intégrer en tant qu'intervenant, animateur et qui peut, en plus de favoriser l'inclusion des jeunes qui ont une déficience visuelle, aider quand même à l'enseignement général. Donc, c'est un guide, je trouve, très intéressant, une initiation en intervention, en activité physique auprès de cette clientèle-là. Je parle de jeunes, mais ça peut être autant appliqué à des adultes, bien sûr. Puis ça peut faire en sorte, en tout cas, c'est ce qu'on espère, que les jeunes qui ont une déficience visuelle puissent participer à plus d'activités physiques en étant inclus dans des activités physiques régulières, finalement.
Aviez-vous l'impression, Maryse, que ces jeunes-là qui vivent avec différentes limitations visuelles étaient un peu exclus de façon générale?
Oui, tout à fait. Donc, les études de l'Université du Québec à Trois-Rivières l'ont démontré que les jeunes qui ont une limitation visuelle sont encore trop souvent mis de côté dans les séances d'activité physique. Donc, on est quand même en 2016, puis ça arrive encore souvent que les enseignants, les animateurs se sentent un peu démunis, si on veut, donc n'ont pas les ressources nécessaires pour avoir confiance d'inclure les jeunes qui ont une limitation visuelle et une déficience visuelle, puis ça s'applique à tous les types de limitations.
Hein. Ouais. Donc, ces intervenants-là ne se sentent pas en confiance d'intégrer ces jeunes-là, ce qui fait, j'imagine, effet domino, ces jeunes-là ne se sentent pas en confiance de participer aux activités.
Tout à fait. Donc, la confiance va des deux côtés, autant que la famille aussi a un impact. Donc, plus la famille va être positive puis va essayer de faire en sorte que son jeune puisse participer à des activités physiques, que ce soit d'aller courir avec, d'aller marcher avec, que ce soit l'enseignant qui essaie d'inclure le jeune. Puis pas juste en trouvant lui-même, l'enseignant, des façons d'adapter l'activité physique, mais en incluant le jeune ou le participant dans ce processus-là, en lui posant des questions, à savoir qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté dans ta déficience visuelle pour mieux comprendre c'est quoi la limitation qu'il a. Puis, lui poser la question, qu'est-ce que tu es en confiance ou qu'est-ce que tu te sens en mesure de faire présentement, puis de cheminer avec ce participant-là dans sa séance d'activité physique pour le faire progresser, puis en même temps, de faire une progression en tant qu'enseignant. C'est toujours valorisant de voir nos participants, peu importe qu'il y ait une limitation ou non, progresser et atteindre leurs objectifs. Donc, ça fait partie de l'ensemble de nos objectifs d'enseignant, mais ça prend des outils pour nous aider à inclure des jeunes qui ont des limitations fonctionnelles pour faire en sorte qu'ils participent et qu'ils vivent une expérience de meilleure qualité, de qualité positive pour qu'ils développent la confiance aussi à vouloir participer.
Maryse, quelles sont les règles? Bon, on ne pourra pas toutes nommer ces règles-là, mais des règles à suivre, des approches de base, je dirais, lorsque vient le temps d'être en contact avec quelqu'un qui a une limitation visuelle et qu'on a envie de l'initier à une activité sportive.
Bien, la première, c'est de s'informer sur qu'est-ce que c'est exactement la limitation visuelle que la personne a. Dans le guide, il y a des descriptions de différents types de limitations visuelles. Par contre, chaque handicap est unique. Donc, c'est important de s'informer c'est quoi les difficultés que la personne vit pour bien comprendre et être plus outillé à adapter, à mieux planifier la séance. Ça, c'est une première règle. La deuxième règle, c'est de s'assurer que l'environnement est sécuritaire. Donc, qu'il n'y a aucun objet qui n'est pas fixe au sol ou qui pourraient être déplacées. Donc, quand une personne arrive dans notre première séance, qu'on a une personne qui a une limitation visuelle, on lui fait faire le tour de l'environnement pour qu'elle puisse se repérer une première fois, être consciente des différents obstacles. Donc, est-ce qu'il y a une poubelle dans l'environnement? Est-ce qu'il y a une poutre au centre ou à l'extérieur qu'il faut faire plus attention? Où sont les toilettes pour qu'elle puisse se repérer? Où est la sortie? Où sont les vestiaires? Donc, comme ça, elle maîtrise un peu mieux l'environnement. Elle se sent déjà un peu plus en confiance. Puis, la sécurité est déjà plus présente. Si on a des bouteilles d'eau, essayez de trouver un endroit, soit un peu plus en hauteur, ou qui est toujours, toujours le même, pour que la personne puisse savoir, OK, dans cet endroit-là, quand j'arrive là, il y a des bouteilles au sol, il faut que je fasse plus attention. Si c'est toujours au même endroit, elle va se familiariser avec l'environnement, puis ça va être quand même sécuritaire à ce moment-là. Une autre chose, c'est d'utiliser dans la communication des indications précises.
Ouais, ici, là, bon,
ça ne dit rien, c'est très générique. Ici, on voit un bras qui pointe la direction, donc ça nous dit un peu plus d'informations, mais la personne qui a une déficience visuelle, qui ne voit pas, ça ne dit rien. Donc, dire « avance de 3 pas », avoir des repères visuels dans l'environnement. Si les vestiaires sont à droite, aller du côté du vestiaire, c'est un endroit qu'elle est familière, et d'utiliser toujours les mêmes repères, ça aide énormément aussi, parce que la personne se familiarise avec notre vocabulaire, avec les repères dans l'espace. Donc, c'est plus facile d'organiser notre séance, puis c'est plus facile pour la personne de mieux suivre aussi. Donc, plus les indications sont précises, mieux c'est, plus la personne va mieux comprendre finalement.
On utilise le prénom de la personne et on indique lorsque l'on quitte la pièce.
Oui.
Je dis ça parce que je l'ai lu dans ce guide, Maryse, et au-delà d'apprendre ou de sensibiliser des intervenants en activité physique à les défis rencontrés par des jeunes avec limitations visuelles, je trouve que c'est aussi un mieux vivre ensemble, mieux vivre avec une personne handicapée. Il y a des trucs, oui, pour plus d'activité physique, mais en même temps, des trucs juste de base dans l'interaction avec des personnes qui vivent différents handicaps. Très rapidement, dernièrement, on adapte l'activité lorsque c'est nécessaire seulement de le faire.
Hein? Seulement, tout à fait, parce que si on l'adapte toujours, ça ne développe pas l'autonomie de la personne, puis ça ne développe pas la confiance. Donc, seulement d'adapter quand c'est nécessaire, allez-y avec les aptitudes puis la personne que vous avez devant vous. C'est toujours ça, la clé de l'intervenant, c'est d'aller avec les participants que vous avez devant vous, différents niveaux. Donc,
et prenez leur force hein, aussi.
Oui,
on glissera sur notre site ce guide pratique adapté pour mieux performer. Maryse Filion, vous êtes coordonnatrice littératie physique inclusive chez Altergo. Une bonne semaine québécoise des personnes handicapées à vous, à toute votre équipe chez Altergo. Merci, Maryse.
Merci.
Merci, Jean-Sébastien. À demain, tout le monde. Portez-vous bien. Bye-bye.